French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Ah ben c'est le monde qui s'écroule, quoi. Tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie et en fait tout est volé, quoi. La grossesse, tu peux plus t'occuper de ta grossesse, quoi. Tu rentres dans un monde de radiation, de chimiothérapie, d'hospitalisation. Et en étant infirmière, j'avais les informations, mais je savais pas à quel niveau on allait tomber, en fait. Et puis tu portes la vie et tu frôles la mort, quoi. C'était ça, hein. Et psychologiquement c'est très dur pour celui qui vit le cancer. Et puis moi j'étais l'accompagnante enceinte, c'était très difficile. Et en fait la seule chose qui m'a rassurée, c'est on est allé voir le docteur de la chimiothérapie. Et en gros il dit bon alors vous êtes planifié comment là pour les radiations, tout ça machin. Et puis donc on explique que moi ma due date c'était, donc la due date c'est ton estimation de ta date d'accouchement, voilà. Et je disais, c'était en décembre, le 29 décembre. Et il dit, bon, alors, les radiations s'arrêtent tant, ce sera autour de début janvier, le pic des effets secondaires. Puis là, vous aurez eu votre dernière chimiothérapie, donc vous risquez d'être bien malade à tel moment, machin. Et puis mon mari, il dit, c'est parfait, fin décembre, c'est juste quand le bébé doit arriver. Et donc, en rigolant, en ayant un peu d'humour, parce que il y a un moment où, t'es un peu sarcastique, quoi.
Quand il en faut, quoi, voilà. Bien sûr.
Il était très sérieux, mais très sérieux. Il avait zéro humour. Il regarde, il dit, mais monsieur, on vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance de l'enfant. Hein. On vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage. Il faut regarder ce qu'on est capable de faire, quoi. Mais capable, je dis pas dans les capacités, je dis au moment T, si tu rampes parce que tu n'en peux plus, si tu pleures, si c'est pas vivable de mettre ton bébé au sein, il faut pas continuer. Ou alors il faut se faire aider. J'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui étaient vraiment très très proches de la dépression postpartum et en fait qui disent l'allaitement c'est trop dur. Et en fait, ce qui fait que l'allaitement est difficile, c'est souvent la méconnaissance, la pression qu'on se met. Parce que tout le monde allait, ou il faut allaiter. Et en fait, on voit, et je pense qu'aussi les social media et tout ne sont pas pour rien, mais on voit toujours des gens qui sont super contents, où l'allaitement, c'est génial, machin et tout
c'est
ça,
facile.
Ou alors, ouais, facile, ouais. Tout ça. Et en fait, pour un nombre de personnes, on corrige quelques petites choses et ça va. Mais il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, qui font qu'il y a des barrières un peu, et puis juste après l'accouchement, qui n'aident pas forcément en fait à établir un bon allaitement. C'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement, mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans ce qu'ils veulent au fond. Oui, et ce qu'ils veulent au fond, quoi.
Alors qu'elle vit dans les Alpes et qu'elle exerce en tant qu'infirmière, Estelle vit un quotidien qui lui plaît, passionnant et au contact de la nature. Son futur, c'est sûr, il sera là. Sauf que bien entendu, c'est pas le cas. Un jour, elle rencontre quelqu'un d'extraordinaire. Un Français qui vit en Californie et qui est de retour pour les fêtes de fin d'année en France. Et tout à coup, son futur change. Quelques mois plus tard, un 1er avril, ça ne s'invente pas, Estelle et l'heureux élu se marient et la voilà qui commence une nouvelle vie aux États-Unis. Peu de temps après, les jeunes tourtereaux attendent leur premier enfant. La Californie leur plaît, bref, la vie est belle.
jusqu'au jour où son mari est diagnostiqué d'une grave maladie. Alors tout change. Cette grossesse tant désirée n'est plus la priorité, puisqu'il faut à tout prix soigner son mari, l'accompagner et se concentrer sur son futur à lui. Alors arrive ce sentiment étrange et cette impression de s'être fait voler sa grossesse par la maladie. Une fois leur bébé né, Estelle se dit que ce lien qu'elle aurait tant aimé développer pendant sa grossesse, eh bien elle pourra le développer par le biais de l'allaitement de son nourrisson. Sauf que ça s'avère bien plus compliqué que prévu. Elle se sent seule. Cette première grossesse et ce premier postpartum vont en fait allumer un véritable feu en Estelle. Une irrépressible envie. Celle de mettre son savoir médical, ainsi que la douceur d'un accompagnement individuel au service des familles, désireuses d'emprunter le chemin de l'allaitement. Et au cours des années suivantes, elle va se former et accompagner des centaines de familles. Aujourd'hui, maman de deux enfants, et aux côtés de son mari, guéri, Estelle a fondé son entreprise et vient en aide quotidiennement aux familles francophones et américaines de la baie de San Francisco. Un épisode plein de rebondissements dans lequel Estelle m'a complètement impressionnée par sa détermination. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire.
Ben bonjour, je m'appelle Estelle. Je suis infirmière depuis à peu près 20 ans. Et j'ai été diplômée en France au départ, et puis un jour, je suis venue m'installer en Californie, et j'ai repassé mes diplômes en Californie. Depuis, je travaille, à San Francisco, et voilà, j'ai aussi, j'aime bien toujours me documenter, faire des trainings je suis toujours à l'affût de nouvelles formations et il y a quelques années j'ai fait la formation d'IBCLC International Board Certified Lactation Lactation Consultant. Voilà, en fait, tout ça pour dire que j'aide les mamans et les familles je les accompagne dans leur allaitement ou pas. Voilà, et à nourrir leurs enfants. Donc voilà, je suis avec ma famille, je suis mariée et j'ai deux enfants et un chien. Voilà.
Une grande famille, super. Tes enfants sont nés aux États-Unis ?
Oui, les deux sont nés aux États-Unis, donc 9 ans et demi et 5 ans. Plus 4 ans et demi, 5 ans.
Ouais, ça passe vite.
Ça passe à une vitesse, c'est complètement dingue. Et ouais, parce que je suis arrivée en fait ici, pour la première fois, j'ai posé le pied aux États-Unis en 2010 et ouais. J'ai déménagé pour de vrai en 2012 et notre fils est né en janvier 2014 et depuis les choses s'enchaînent, c'est complètement fou.
Alors avant de vous parler des États-Unis, de sa vie aux États-Unis au cours des 13 dernières années, j'ai demandé à Estelle de faire marche arrière et de me raconter à quoi ressemblait en fait son quotidien en 2010 et avant ça même. Son mari, il est français, et leur rencontre est clairement digne de celle que l'on voit dans les comédies romantiques.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me destinais à rester en France et tout ça. Hein. J'ai pas un parcours, si tu veux, généralement, les gens... Enfin, surtout dans la Bay Area, les gens qui viennent, qui s'expatrient, c'est souvent des gens quand même qui ont des... diplômes qui sont au-delà du bac, quelques années au-delà du bac quand même, par rapport au visa, tout ça, c'est quand même souvent au-delà du bac. Et moi, j'ai commencé par un BEP, un CAP, je suis allée en bac plus tard, et puis ensuite j'ai fait l'école d'infirmière, mais si tu veux, c'était pas un parcours pour m'expatrier, quoi.
Ouais. C'est pas le parcours typique de l'expatrié, surtout dans la région de San Francisco.
Exactement, parce que surtout dans la région de San Francisco, tu vas être ingénieur en informatique et tu vas venir faire un stage et tu restes là, quoi, ou tu cherches à venir ici. Mais c'est pas trop, voilà, infirmière, c'était pas trop ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais En France, j'étais très attirée par tout ce qui était urgence, réanimation, un peu la pédiatrie. J'avais fait un BEP, un CAP dans carrière sanitaire et sociale, CAP petite enfance. Enfin, j'étais quand même dans la petite enfance avant, mais il y avait quand même cette attirance pour les urgences, la réanimation, le préhospitalier. J'étais pompier. J'étais quand même super attirée par ça, ce qui m'a menée à venir à Grenoble, parce que je suis originaire des Hautes-Alpes. Et ça m'a amené à venir à Grenoble. Et puis de là, j'ai commencé à connaître des gens. Et par ces gens que j'ai connus, notamment une copine qui était pharmacienne-pompier, j'ai, à peu près 2008-2009, j'ai rencontré mon mari, bon, qui n'était pas mon mari à l'époque. Et lui, était déjà ici.
En Californie ou aux US en général?
En Californie, oui. Ouais, il était à San Francisco depuis 2005. Et en fait, il revenait régulièrement en France.
Dans ta région?
Ben, il revenait à Paris et il couplait toujours un week-end ou quelque chose comme ça pour venir sur Grenoble. Parce qu'il aimait bien faire quelques petits... Enfin, un peu de sport et puis des petites choses sur la région. Voilà. Et il faisait du base jump. Donc, il sautait.
C'est quoi ça?
Tu sautes. BASE, c'est l'acronyme de Building, Antenna, Span et. Attends. Et le Earth. Donc, en fait, tu sautes de falaises, de ponts, d'antennes avec un parachute.
Et tu fais le parachute. D'accord. Voilà. Donc, amateur de sport extrême.
Et j'étais pote avec son cousin et avec des copains à lui, par ma copine pompier. Pharmacienne pompier. Et donc, du coup, on s'aimait bien, mais pas. Voilà. Et puis un jour, bah, voilà, les choses sont faites qu'on a plus communiqué fin 2009. Et puis, quand il est revenu pour les vacances d'hiver, bah, voilà. Voilà, Noël de 2009, on s'est mis ensemble.
D'accord, ok, trop bien.
Mais on savait, enfin, on s'est dit, lui, il était pas loin d'avoir la green card. Et en gros, un jour par téléphone, il m'a dit « Bon, bah, j'ai demandé à mon avocat, soit on se marie, soit ça va être très compliqué pour toi de venir. » Donc, c'est comme ça qu'il a fait sa demande en mariage. Et il a dit « De toute façon, ce sera toujours plus facile si on divorce, hein, si on ne s'entend pas, que toi d'essayer de venir avec un visa. » Parce qu'à l'époque, tu sais, jusqu'en 2006, c'était facile de venir avec... En fait, jusqu'en 2006, si tu obtenais ton NCLEX, donc c'est le diplôme, c'est ta licence. Tu sais, ici, tout le monde a une licence. Tu es esthéticienne, tu as une licence. Tu fais les ongles, tu as une licence.
Ah, c'est une certification. Quoi.
Voilà, c'est une certification. Et en fait, l'État te dit que tu as le minimum requis pour pouvoir exercer ta profession. Et en fait, c'est un test. Et voilà. Et après, il te donne cette espèce de diplôme. Et donc, du coup, il m'avait dit... jusqu'en 2006, en fait, tu avais ce diplôme. Tu passais tes équivalences. Enfin, tu faisais reconnaître tes équivalences. Tu passais ce diplôme. Et une fois que tu avais ce diplôme, bah, tu allais postuler un peu dans les hôpitaux. Et il y avait certains hôpitaux. Enfin, il y avait pas mal d'hôpitaux qui te sponsorisaient une green card. Et en 2006, ils ont arrêté. Et dû aux crises et tout ça. Et puis, ils avaient aussi suffisamment d'infirmières, donc ils ont arrêté de faire ça. Et moi, je suis arrivée donc, sur les coups de 2010, et ça commence à être un petit peu tendu.
Mais c'est spécifique un peu aux professions de santé, ça, non?
Ouais. Ben, en fait, infirmière, on est quand même assez chanceux. On n'a pas de stage à refaire. Si tout va bien, si tout se passe bien, on n'a pas de stage à refaire. C'est que de la paperasse. Alors que, tu vois, les médecins, ils ont une résidence... Pour la plupart, c'est ce qu'on appelle la résidence, là, et ils ont pour la plupart, sauf s'ils passent par un seul hôpital, mais après ils sont, je connais pas très bien en détail, mais
rattachés
ils sont
rattachés à
celui-là. Bon, donc voilà, donc...
Attends, juste pour comprendre la chronologie, fin 2009, vous vous mettez ensemble?
Ouais.
Et tout de suite,
Il a fallu se marier parce que...
Ouais, non, mais d'accord, mais tu peux te mettre ensemble et découvrir l'autre.
Ben ouais,
mais en fait, vous êtes mis ensemble en sachant qu'il vivait à l'étranger. Ouais. Donc toi, tu savais qu'il n'allait pas revenir s'installer en France. Et tout de suite, tu savais que, a priori, votre relation, elle se passerait de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça?
Ben en fait, on s'est dit, avant de se mettre ensemble, quand on discutait, on s'est dit, on avait quand même vu qu'il y avait un truc. Hein. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si on se met ensemble, ça va maintenant. On était dans la fin de notre vingtaine, début de la trentaine. On a dit, ça va, on va pas s'amuser à faire de la longue distance. Il va falloir trouver une solution.
C'était pas votre truc, quoi. Ouais, d'accord. Okay.
Voilà. Donc,
tout de suite, vous êtes passé à l'action. Au bout de combien de temps vous avez parlé mariage alors?
Disons qu'on s'est marié en 3 mois, quoi.
Bon, même pas peur.
Mais non, on s'est mis ensemble le 25 décembre, on s'est marié le 1er avril.
Oh, ah oui, même pas une blague, j'adore.
Ouais, c'était notre faire-part, c'était, c'est pas une blague, et on a envoyé la photo, voilà. C'était pas une blague, voilà.
D'accord.
Et on a envoyé la photo à la famille. Et donc voilà. Et puis, ce qui devait prendre 6 mois a pris 2 ans, voilà, pour avoir... Parce qu'en fait, on a été obligé de faire ça, parce que de se marier assez rapidement, parce que lui, il arrivait à la fin du process de Green Card, et en gros...
Il ne pouvait pas te sponsoriser.
Voilà. Voilà, et en fait, il fallait que ça... On soit mariés, que la date du mariage soit avant les papiers finaux, enfin, le truc final, la signature finale, voilà. Avant de tout envoyer les papiers pour... Voilà. Et en fait, l'administration, je ne sais pas si l'administration n'a pas trop aimé, ou je ne sais pas, ils n'ont pas fait d'efforts, en gros, et ils se sont trompés dans les noms, enfin, l'application a été fermée, enfin, tout ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît les joies de l'administration.
Malheureusement,
voilà.
Ouais.
Et ça a pris 2 ans à la place de prendre 6 mois.
D'accord. Donc, vous qui ne vouliez pas de relation à distance, vous avez quand même fait 2 ans...
Ouais, je voyageais, j'ai fait le secondary check quelques fois. C'était...
Secondary check, c'est quoi? C'est tu passes la douane et on te dit, vous allez aller dans la petite pièce du fond.
Voilà,
là, et
pas de téléphone.
On va vous poser quelques questions. Mm-hmm. Ouais, ça capte pas, miroir sans teint presque.
Mm-hmm. Ouais, et assez inconfortable, j'avais un niveau d'anglais qui frisait le zéro.
C'est arrivé aussi.
Ouais. Mon niveau d'anglais frisait le zéro. Hein. Je savais les verbes irréguliers, je ne savais pas les utiliser. Je me souvenais plus qu'il fallait utiliser « will » pour le futur. Je ne me souvenais plus comment on parlait du futur. Quand il me posait une question, je répondais à côté. Enfin, bon, bref.
Et puis là, il n'y a personne pour t'aider dans ces moments-là.
Non. Et puis, je ne sais même pas si tu as le droit de demander un traducteur. Parce que normalement, tu devrais avoir le droit de demander puisque c'est un service public.
Je pense. Mais du coup, ça prend encore plus de temps, quoi.
Ouais, et puis bref, et à chaque fois que tu dis quelque chose, ils rebondissent sur chaque mot pour savoir si c'est... Oh là là, c'est hyper inconfortable.
Ils te reposent 12 fois la même question de manière différente pour être sûr.
Ouais, et là tu te dis, mais ils ont compris ou c'est moi qui suis stupide, je comprends rien, enfin bref. Donc voilà, déjà 2 fois, et puis la 3e fois où j'allais passer au secondary check, on est passé ensemble, on a donné tous les papiers, il y en a un qui a... Enfin, ils nous ont... fait la vie pendant 45 minutes, puis après il y a le chef qui est venu, il a regardé tous les papiers, ils ont mis une note dans mon dossier, et après je ne suis plus jamais passée au secondary check, je passais 3-4 fois par an avec mon ESTA, et il n'y avait plus aucun problème.
Ah, tant mieux, ok.
Ouais, donc voilà. Bon. Pendant 2 ans, j'ai fait ça, aller-retour, je rentrais en France, travaillais en intérim, puis je revenais ici, et pendant 2 mois à peu près... Donc j'ai tout laissé en 2010, c'était la grosse décision de tout laisser en France et de partir et de venir m'installer ici à San Francisco avec mon mari. Donc voilà, l'appartement que j'avais acheté.
c'est une sacrée décision. Tu avais quel âge à ce moment-là?
28. J'avais 28 ans, donc ouais, j'avais eu le temps, tu vois, de construire un petit quelque chose. J'avais ma famille, j'étais très attachée à ma famille. Et puis, je réalisais mes rêves professionnels. Et puis, j'ai tout quitté, je suis venue ici. J'ai dû attendre d'avoir un numéro, tu sais, un SSN, pour pouvoir appliquer pour...
Un numéro de sécurité sociale.
Voilà. C'est une chose que tout le monde attend avec impatience pour pouvoir bosser et tout ça.
Ouais, c'est particulier le système aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut rien faire sans le numéro de sécurité sociale auquel est lié pas vraiment notre sécurité sociale. Enfin, pas en tout cas au sens français du terme. Mais c'est ce qui te permet de travailler. C'est lié aussi à tes comptes en banque. C'est lié à ton numéro de téléphone. C'est un numéro où tu ne peux rien faire seul, en fait, sans, en gros.
Voilà, tu peux rien faire sans, et puis à la fois, il faut que ça reste confidentiel, et tu le reçois quand tu as un permis de travail. À un moment, si tu as un permis de travail, tu le reçois, même si après tu perds ton permis de travail, de toute façon, il est toujours le même après pour le reste de ta vie.
Ouais.
Et c'est confidentiel parce qu'avec ça, ta date de naissance et une adresse, et les gens peuvent ouvrir des comptes en banque, des crédits de carte,
des crédits,
Donc voilà, enfin bon bref, et il me le fallait pour pouvoir, parce qu'en Californie, le board of nursing, là, donc les personnes qui étudient, c'est l'ordre infirmier en fait, qui étudie tes équivalents, enfin, si tu as fait une scolarité qui est égale à la scolarité qu'ils demandent pour atteindre le niveau minimum d'exercice de la profession infirmière. En fait, ils regardent si tu as fait, suivant des critères, si tu as étudié ce qu'il fallait. Et après, ils te donnent ou non l'autorisation d'aller passer le test. Et donc, pour ça, il fallait le numéro de sécurité sociale.
D'accord. Donc, tu ne pouvais même pas commencer finalement en amont pendant tes 2 ans où tu attendais. Il a fallu que tu attendes. OK. La vache, tu es quelqu'un de patient dans la vie ou
ouais.
Ou c'est quelque chose que tu as appris?
Mais en fait, je me dis, de toute façon, autant en profiter pour faire autre chose. Donc, comme de toute façon, je ne savais pas parler anglais, je me suis dit, allez, je vais apprendre à parler anglais en attendant, tu vois. Et puis, je vais réviser, je vais regarder un peu ce que c'est le test. Parce que le test, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Tu sais, le test, c'est... À l'époque, c'était 75 questions minimum. Ça pouvait aller jusqu'à 275 ou un truc comme ça, ou je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est sur ordinateur et c'est des QCM. Donc, généralement, tu as 4 réponses possibles et c'est adaptatif. Donc, en fait, si tu réponds bien, il te donne des questions plus difficiles. Si tu réponds mal, il te donne des questions plus faciles. Tu as différents domaines. Et en fait, l'ordinateur attend d'avoir... une vue assez, enfin d'avoir suffisamment de réponses, soit positives, soit négatives dans chaque domaine. Et après, bah, à la fin, à un moment, quand il a son nombre de réponses dans chaque domaine, pouf, il s'arrête. Et tu sais pas. Et donc, c'est hyper inconfortable parce que tu n'as aucune idée si tu as passé ou pas, parce que tu as des impressions bizarres, quoi, en fait. Donc, c'est assez étrange. Et donc voilà, donc j'ai essayé quand même d'envoyer mon application sans SSN. Je me suis
donc
dit
sa
sur
candidature.
Mais oui, sa candidature, parce que tu te dis sur un malentendu, ça peut marcher.
On est français, on essaye un peu les magouilles au cas où. Il y a peut-être une faille dans le système, il y a moyen de se faufiler.
Exactement. Ben non, ça a pas marché. Ils m'ont renvoyé mon chèque, ils m'ont dit.
Les règles, c'est les règles. Et encore, t'as de la chance qu'il n'ait pas encaissé ton chèque, parce que
j'en
serais capable.
Oui, et en fait, ils me l'ont renvoyé, ils m'ont dit, il va falloir nous envoyer votre SSN. Bon, ok, tant pis, j'ai essayé. Ouais. Donc, j'ai attendu 2012 de recevoir ma green card et de recevoir mon numéro SSN. Voilà.
D'accord.
Et donc là, j'ai fait le process, la procédure. Mm-hmm. Et j'ai été assez chanceuse, ça a duré 10 mois, parce que... le bord de Californie n'est pas connu pour être très réactif, très rapide. Je sais que parfois, ça peut aller un peu plus vite. Mais moi, à l'époque, ce n'était pas évident. J'ai une copine avec qui je l'ai fait en même temps. Elle a mis 2 ans.
D'accord, vache.
Voilà,
pour le même diplôme ?
Pour le même diplôme, oui. Parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Moi, j'avais de l'expérience en néonatologie. Et puis, j'avais fait des stages en maternité. Et elle, je crois qu'il lui manquait quelques trucs. Elle a dû refaire un semestre dans une école. Ça a été la galère trouvée.
Et puis, c'est cher en plus.
Et ouais, c'est cher, puis elle est allée le faire à Saint-Bernardino, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'école autour qui prenait pour un semestre. Donc,
d'accord.
Voilà.
Saint-Bernardino qui est au niveau de Los Angeles,
dans les
terres, quoi.
Exactement. Donc, elle a passé un été là-bas. Donc, voilà. Et puis, donc, j'ai passé mon examen, je l'ai eu. Et puis, tout de suite après, je suis tombée enceinte. Parce qu'on voulait avoir un bébé. Et en fait, je pense que psychologiquement, tant que je n'avais pas mon diplôme, ça ne marchait pas.
Ah ouais, c'est dingue.
Et dès que j'ai eu mon diplôme, ça a marché. Voilà, j'ai commencé ma grossesse ici, avec, tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Grossesse, tout le monde a un gynéco, je prends un gynéco, voilà. Et puis, jusqu'à 20 et quelques semaines, 20 semaines à peu près. Et puis là, je commence à me faire un peu du souci pour l'accouchement, parce que j'ai un peu mal au dos, donc je dis à ma gynéco, comment ça se passe ici, les accouchements ? Parce que j'avais aucune idée de comment ça se passait ici. J'arrivais de France, j'avais une petite idée, même si j'avais vu comment ça se passait en mater, mais ça commençait à dater. J'avais travaillé en réa néonat, mais j'étais pas dans les salles d'accouchement. Donc, je me demandais un petit peu, donc je commence à lui parler, lui dire, voilà, j'ai un peu mal au dos, est-ce qu'on peut pousser d'une façon différente que sur le dos, les pieds dans les étriers ? Puis elle me dit, si vous voulez, on programme une césarienne.
Ah ouais, donc on te propose une césarienne pas forcément nécessaire médicalement, quoi.
Ah ben non, ce qu'on appelle élective ici. Alors je me suis dit,
donc c'est le choix du patient.
Ouais.
C'était quoi ta réaction ? C'est un peu ouf, non ?
Ça m'a bloqué un petit peu la respiration. Et je l'avais choisie parce qu'elle parlait français. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Je choisis le français ou je prends le risque d'avoir une césarienne? Comme ça. Enfin, parce que j'étais pas contre la césarienne si c'était nécessaire, mais comme ça. Hein. Donc, bon, je suis sortie du bureau, j'étais un peu sous choc. Et je dis pas, hein, ça peut très bien convenir à certaines personnes. Hein. J'ai rencontré des gens qui étaient suivis par elles et qui étaient super contents d'avoir eu leur césarienne programmée parce qu'ils savaient et tout. Et nickel pour eux, mais moi, c'était pas mon truc.
Ça se fait beaucoup, j'ai l'impression, quand même, aux États-Unis. Moi, j'ai plein de copines pour qui la grossesse se passait relativement bien, mais on leur a dit, si tu veux, je te fais une césarienne tel jour, ou alors on attend 2 semaines de plus et ça viendra tout seul.
Ouais, c'est assez fréquent. Bah, après, la césarienne, c'est hyper prévisible, c'est plus payé.
Pour les médecins, ouais. les hôpitaux.
Bah, oui, après...
Oui, c'est une opération, quoi.
Ouais. Ça veut rien dire, les chiffres que tu reçois de l'assurance, parce que de toute façon, quand les hôpitaux billent les assurances, enfin, qui font leur facturation, ils facturent toujours beaucoup plus. Donc, pour être remboursé le maximum. Donc, de toute façon, ça n'a rien, enfin, ça veut rien dire ce que tu reçois à la maison. Donc, mais globalement, enfin, l'hôpital où je travaille, globalement, une césarienne, c'est aux alentours des 40 à 50 000 dollars, en gros. Un accouchement par voie basse, ça sera peut-être dans les 7 000 ou 10 000. Ou 10 000 voilà.
Ouais, d'accord.
7 ou 10 000. Donc, c'est pas négligeable, en fait, pour l'hôpital, si tu veux. Ils ont pas de... Ici, on dit incentive, donc ils n'ont pas d'intérêt à pousser
intérêt
pour... voilà, ils n'ont pas d'intérêt à pousser pour un accouchement naturel. Parce que bah, tu poses une péri...
Bah, ça dépend. Je veux dire, l'hôpital, il y a quand même un peu d'éthique aussi. Tu dois quand même avoir le bien-être de ton patient en tête.
Ouais,
quoi.
Ouais, mais...
Parce que je veux dire, une césarienne a aussi beaucoup plus de risques puisque tu ouvres, enfin, j'imagine.
Ouais, mais en fait, ils contrôlent vachement. Et en fait, tu vois, ils posent une péridurale, ils contrôlent l'heure à laquelle ils vont faire la césarienne, tu vois. Si tu mets quelqu'un en travail pendant plus de 24 heures, il y a des risques d'hémorragie qui augmentent. Si tu leur donnes certains médicaments, il y a le risque d'hémorragie qui augmente. Alors que là, bah, ils arrivent, ils coupent, ils ferment. Et puis oui, il y a le risque d'infection et tout ça, mais ils sont hyper rodés. Donc, ouais.
C'est ouf.
Ouais, donc il y a des hôpitaux, il y a des providers, comme tu dis, qui vont dire, tu vois, le bien-être du patient. Mais il y a des établissements où ils proposent la césarienne parce que c'est il y a beaucoup de contrôle sur la césarienne. Je dis pas qu'ils le font tous, je dis pas qu'ils ont une mauvaise éthique.
Bien sûr, bien sûr.
Je dis juste que c'est facile de tomber dans ce cercle-là, à avoir, si tu veux, il y a qu'à avoir les chiffres. Hein, je veux dire, normalement, ça doit être, je ne sais pas exactement les pourcentages, mais aux alentours, entre 15 et 17%, on considère que ce n'est pas trop mal en termes de taux de césarienne. Des hôpitaux qui ont 40-50% de taux de césarienne, c'est quand même assez... Alors qu'après, il faut regarder ce qu'ils gèrent aussi. Est-ce qu'ils gèrent du haut risque, de la grossesse à haut risque? Parce que c'est normal...
Tu regardes en fonction quoi, des niveaux de néonatalogie,
ouais,
aussi, de ce
ouais.
que ça va accueillir.
Voilà, parce qu'en fait, si tu gères du haut risque, c'est normal d'avoir un taux qui est plus important. Mais quand tu gères que du risque très faible, je veux dire, c'est pas normal d'avoir 50% de césarienne. Enfin bon, voilà. Donc du coup, je me dis, oh là là, et donc je vais voir la prof de yoga qui est super connue à San Francisco, qui fait tout le yoga prénatal, et je lui parle de mon histoire, que je veux pas une césarienne, qu'on m'a proposé une césarienne au rendez-vous des 20 semaines, ou je sais plus combien, enfin bref. Et elle m'a dit, mais tu peux faire un late transfer, donc transférer ton dossier un peu plus tard dans la grossesse. Et tout ça, je savais pas, mais je me suis dit, mais en fait, tout ça, je suis pas au courant, j'ai l'impression que je dois suivre comme un mouton et tout. Et elle me dit, tu peux aller voir des sages-femmes. Et je dis,
d'accord.
Mais il y a des sages-femmes ici.
Donc les midwives.
Les midwives.
Aux US.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, elle m'a donné un nom, et en plus, ça tombait super bien, c'était juste à côté de chez moi. Et donc, je suis allée les voir. Et voilà, et j'ai fait mon transfert et j'étais super contente d'être suivie. Là, pas du tout le même suivi. Le suivi à l'européenne, quoi, en gros.
Et alors, c'est quoi le suivi à l'européenne? Alors, raconte.
Mais en fait, c'est un groupe où il y a des docteurs dans le cabinet. C'est un gros cabinet qui travaille avec l'hôpital. Les docteurs travaillent à l'hôpital, les sages-femmes travaillent à l'hôpital, et où tu vas accoucher. Et tu vas... aux consultations externes, qui est donc l'équivalent des consultations externes, donc la clinique, ils appellent ça. Et donc, tu prends ton rendez-vous et tu vois une sage-femme. Il y a un groupe à peu près de... Alors moi, à l'époque, il y avait 6 ou 7 sages-femmes. Et à chaque fois, tu avais une sage-femme différente. Et donc, au final, tu voyais toutes les sages-femmes qui potentiellement pouvaient t'accoucher.
Ouais, d'accord. Ça te permet aussi de savoir avec qui ça va se passer.
Voilà. Okay. Et puis, occasionnellement, tu vois aussi le docteur qui potentiellement va être là ce jour-là ou pas. Mais enfin, tu vois un peu moins les docteurs quand même. Donc ça, c'est une forme. Et pour ma deuxième, j'ai fait une préparation différente. J'avais une sage-femme référente et j'y allais les jeudis soirs. Et c'était le centering. Donc en fait, tu es en groupe, toujours le même groupe. Et au début, c'est une fois...
Ah, le groupe de femmes enceintes,
voilà. T'es 5-6 et puis les jeudis soirs tu y vas. Alors là, au début c'est un jeudi soir par mois, puis après ça un jeudi soir toutes
ça
les deux semaines, et puis ça se rapproche.
Bien.
Et puis après à toute fin, quand c'est toutes les semaines, tu repasses en un pour un. Donc tu vois la sage-femme.
D'accord. Mais c'est sympa parce qu'en même temps ça te fait aussi un groupe de mamans avec des enfants du même âge que tu rencontres. J'imagine que tu lis des liens au fur et à mesure de ta grossesse.
Voilà, ouais, c'est ça. Et puis tu vois ceux qui accouchent, voilà, et comment ils accouchent et tout ça. Et nous, il y avait une maman qui avait des jumeaux. Enfin voilà, c'est chouette, quoi. C'est très chouette. Donc voilà. Et donc ça, pour mon premier, j'ai fait un, parce que je suis arrivée un peu tard, donc j'ai pas pu faire ça. J'ai fait un pour un. Et voilà. Et donc la grossesse se passe. Et puis, à 6 mois de grossesse, mon mari a été diagnostiqué avec un cancer. Voilà, donc stade 3. Quand, voilà.
Donc, un truc potentiellement avancé.
Ben ouais, parce que c'est 1, 2 ou 3 ou 4. Et donc, 4, c'est quand même très étendu.
Donc, j'imagine un peu des sacrées secousses au niveau de la famille. Enfin,
C'est le monde qui s'écroule, quoi. C'est, tu vois, c'est... Tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie. Et en fait, tout est volé, quoi. La grossesse, enfin, tu peux plus t'occuper de ta grossesse, quoi. Tu rentres dans un monde de radiation, de chimiothérapie, d'hospitalisation, de tubes, enfin, voilà. Et en étant infirmière, c'est bizarre parce que j'avais les informations. Tu vois, je savais ce que ça voulait dire, mais je savais pas à quel niveau on allait tomber, en fait. Et puis, tu frôles, enfin, tu portes la vie et tu frôles la mort, quoi. C'était ça, hein, parce que c'était...
Une ambivalence hallucinante,
ouais. Et psychologiquement, c'est très dur pour celui qui vit le cancer. Et puis, moi, j'étais l'accompagnante enceinte. Et la seule chose... qui, en fait, m'a rassurée, c'est quand on est allé voir... alors, t'as un docteur pour tout. Après, une fois que tu tombes là-dedans, tu vois, on a beau critiquer le système américain, mais nous, on a une assurance. Et c'est une assurance... c'était une assurance qui est ici, dans la Bay Area, très classique. C'est ce qu'on appelle les PPO, quoi. C'est en gros, tu choisis les docteurs que tu veux. Globalement, dans 99% des cas, t'es remboursé. Enfin, il y a juste quelques personnes qui ne sont pas couvertes par ces docteurs. Enfin, c'est cette assurance, mais globalement, tous les docteurs sont couverts par cette assurance. Donc, en fait, c'est une grosse machine qui se met en route. T'as tous les examens et les rendez-vous qui tombent les uns après les autres. T'as rien besoin de demander, en fait. De toute façon, ton planning est ouvert parce que tu veux te faire soigner. Hein. Ils te disent, tu viens demain à 9h, tu viens demain à 9h. Hein, et tu annules tous tes meetings et tout ça. Il n'y a plus rien qui compte. Et donc,
et toi, à l'époque, tu ne bossais pas pendant ta grossesse?
Non, je ne bossais pas. Et puis, j'avais essayé de chercher du boulot juste, tu vois, entre le laps de temps, entre ce que je tombe enceinte ou les quelques mois de début et tout. Et je m'étais rendu compte que c'est hyper difficile. En 2013... ce qu'on appelle les new grades, donc quand tu sors de l'école, elles partaient dans d'autres états, tu vois, pour...
Parce qu'il n'y avait pas de besoin.
Parce qu'il n'y avait pas de besoin, elles allaient faire leurs 2 ans et elles revenaient ici, parce que la Bay Area a toujours été connue pour payer très très bien. Enfin, je veux dire, tu commences à l'hôpital quand tu arrives, que tu es new grade, parce que tu vois, par exemple, tu as fait un stage et tu rentres par un système, t'as quelqu'un qui t'interview, tu rentres, t'es new grade. À l'époque, hein, tu rentrais aux alentours de $63 de l'heure, tu vois. Donc, je ne sais pas si... Enfin, en Californie, c'est 15 dollars le minimum, enfin, le SMIC, quoi, c'est 15 dollars de l'heure. Tu vois, c'était très bien payé. Enfin, et puis après, tu avances dans les échelons, ça avance. Donc, c'était très bien payé par rapport à ailleurs. Donc, t'as des gens qui venaient de bosser d'autres...
De partout, voilà, aux États-Unis.
Ouais. Et donc, en fait, c'était hyper difficile de trouver un job. J'avais pas réussi à trouver en quelques mois un job et tout. Puis, j'étais enceinte. Puis après, j'avais abandonné. Parce qu'après, ça commençait à se voir. Et donc, laisse tomber, quoi. Et puis ça me demandait un énorme effort, enfin, tu vois, de tout réapprendre, enfin, à travailler en anglais et tout. C'était, voilà, donc je ne me voyais pas faire ça à 9 mois de grossesse. Et donc, du coup, j'avais laissé tomber, puis je me suis occupée de mon mari, en fait. Je me suis occupée de lui. Et donc, ça a été le gros... Enfin, c'était difficile, c'était très difficile, j'étais épuisée. Donc, j'ai appelé au secours ma belle-mère qui est venue nous aider. Et c'est là où je me suis aperçue aussi, tu vois, que le soutien d'avoir quelqu'un à la maison qui t'aide, quoi qu'il arrive, même si ça se passe bien, je me suis dit, c'est quand même essentiel. J'avais pas de notion de ça, j'avais pas, enfin, je voyais pas un peu tout en rose avant, mais je me disais quand même, tu vois, on va y arriver, ça va, c'est un bébé, tu vois, et tout. Et puis, et en fait, je m'étais pas rendu compte de toute cette notion de la fatigue que tu as en fin de grossesse, malgré tout. Je parle pas de la maladie, mais... Donc voilà, et en fait, ouais, c'était très difficile. Et en fait, la seule chose qui m'a fait, qui m'a rassurée, c'est on est allé voir le docteur de la chimiothérapie. Et en gros, il dit, bon, alors, vous êtes planifié comment, là, pour les radiations, tout ça, machin. Et puis, donc, on explique que moi, ma due date, c'était... Donc, la due date, c'est ton estimation de ta date d'accouchement, voilà. Et je disais, bah, c'était en décembre, le 29 décembre. Et il dit, bon, alors, les radiations s'arrêtent tant, ben voilà, vous aurez le pic des radiations, parce que ça arrive 15 jours après, le pic des radiations, ça arrive, ben, ce sera autour de début janvier, le pic des effets secondaires.
Donc les symptômes.
Les effets secondaires, ouais, de la radiation. Et ouais, puis là, vous aurez eu votre dernière chimiothérapie, donc vous risquez d'être bien malade à tel moment, machin. Et puis mon mari, il dit, c'est parfait, fin décembre, c'est juste quand le bébé doit arriver. Et donc, en rigolant, en ayant un peu d'humour, parce que bon, bah, y a un moment où voilà, tu es un peu sarcastique. Quoi,
quand il en faut, quoi, voilà, bien sûr.
Il était très sérieux, mais très sérieux. Il avait zéro humour. Il me regarde, il dit, mais monsieur, on ne vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance de l'enfant. Hein. On vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage. Donc, voilà. Et en fait, ouais, c'est la seule chose qui m'a rassurée, qui m'a fait tenir, en fait. Parce que je me suis dit, il voit à long terme, et il faut voir à long terme et tout ça. Bon, bref. Parce que moi, j'étais un peu dévastée par rapport à ça. J'ai eu vraiment des sages-femmes qui se sont battues pour moi lors de l'accouchement, en fait, pour essayer. Elles ont tout fait pour que ça se passe bien. Et en fait, ça ne se passait pas bien. Il y a eu une intolérance du travail. J'arrivais pas à avoir des contractions et en même temps le bébé ne tolérait pas les contractions. Dès que j'avais des contractions, ils étaient obligés d'arrêter les contractions parce que le bébé il ne tolérait pas.
Ouais, donc une angoisse supplémentaire.
Ouais, puis j'étais épuisée, j'étais plus du tout, plus de force, plus du tout à lutter, plus rien. Elles ont tout essayé pour moi, je leur disais oui, je veux pas de césarienne, on continue et tout, mais j'y arrivais plus. Puis finalement, quand on a tout épuisé les chances et que ça commençait à être à risque d'infection, parce que plus de 24 heures, la poche des os ouverte, enfin voilà. Donc du coup, bah, j'ai eu une césarienne et voilà, je l'ai pas très très bien vécu parce que voilà.
Puis surtout que tu avais changé de soignant pour avoir un truc plus naturel, mais comme tu le dis, si tu veux, il y a un moment où il fallait réagir pour te protéger toi et ton bébé, quoi.
Ouais, et puis après, enfin, tu vois, après je suis devenue infirmière en labor and delivery, donc en maternité, où je fais du 80% du travail de sage-femme, c'est-à-dire que j'accueille les patients, je leur commence leur déclenchement, quand il y a déclenchement ou quand elles sont déjà en travail, on les suit, on les accompagne, je lis les monitos, je surveille le bébé, la maman tout le temps, enfin voilà. Et plus tard, quand j'ai regardé ce qu'elles avaient fait pour moi lors de mon, je sais qu'on a tout fait.
Elles ont fait ce qu'il fallait faire.
Elles ont fait elles ont fait ce qu'il fallait faire par rapport. Donc j'ai regardé et j'ai eu aucun regret après. Mais sur le coup, j'étais tellement je regrettais tellement que je me suis dit de toute façon l'allaitement, il faut que ça marche, quoi. l'allaitement, faut y aller, faut que ça marche.
En fait, ce que m'explique Estelle, c'est que sa grossesse, sa première grossesse, a été particulièrement compliquée par la maladie de son mari. Son mari qui va beaucoup mieux et qui est guéri aujourd'hui d'ailleurs. L'angoisse, l'épuisement, la solitude. Alors quand cette césarienne arrive, ok, c'est pour sa santé, pour la santé de son bébé, elle l'accueille, et l'essentiel finalement, c'est que son bébé est né en bonne santé. Mais à ce moment-là, Estelle essaye de se raccrocher à quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui est vraiment à elle. Parce que finalement, elle a eu l'impression que sa grossesse lui a quelque peu échappé. Alors Estelle se met en tête qu'elle allaitera ce bébé. Vous allez l'entendre parler de formule. La formule, en fait, c'est le lait en poudre. C'est un anglicisme qui vient de formula, pour dire donc lait en poudre en anglais.
Et puis, quelque part, vaguement dans mon idée, tu vois, j'étais open, tu vois, toute ma vingtaine, j'étais open à donner de la formule et tout. Je me disais, il n'y a pas de problème à ça et tout ça. Et en fait, j'avais quand même vu les bienfaits quand j'étais en réa néonate, j'avais quand même vu les bienfaits sur les bébés du lait maternel et tout ça, sur leur digestion et tout. Et tiens, ça avait mis quelques graines dans ma tête. Mais si tu veux, c'était hors de question. C'était hors de question qu'on donne de la formule.
Ouais. C'était hyper important.
Et hyper important parce que je rattrapais.
Pour votre relation. Ouais.
Et en fait, ça s'est pas passé super bien. C'était hyper douloureux au début. C'était une catastrophe. J'avais trop mal. J'avais les tétons qui étaient craqués et tout. Et j'ai pas eu un énorme support à l'hôpital, un petit peu, mais.
Ouais, ce que j'ai demandé, c'était accompagné.
Ouais, pas énorme à l'hôpital. C'était pas. Et alors, j'avais quand même une notion, hein, j'avais quand même d'infirmière, et puis de la réa néonate, et puis de ce que j'avais un petit peu, lu, cherché. Je savais qu'il y avait certains principes qu'il fallait conserver pour pouvoir produire du lait quand même et tout ça. J'avais un peu limité à l'hôpital, parce qu'il y avait des infirmières qui poussaient énormément pour la formule. J'avais un peu limité, je m'étais un peu interposée, ouais, un peu imposée. Mmh. Et puis, je crois qu'elles avaient bien compris, parce que, tu vois, normalement, en fait, ici, partout, tu fais le premier lever du patient après la césarienne avec une infirmière. Tu vois, c'est l'infirmière qui vient te lever et tout. Moi, quand j'avais encore la perf qui coulait, donc je crois que ça faisait 2 heures que j'étais rentrée dans la chambre. J'ai essayé de me lever toute seule, j'ai traversé, j'ai fait un malaise, enfin bon, bref. Je me suis recouchée dans le lit, je les ai appelés, je leur ai dit « Je crois que je vais avoir la tête qui tourne si je me lève toute seule, alors que je venais de me lever toute seule. » Le truc qu'il ne faut pas faire. Donc, je crois qu'elles avaient cerné qu'il ne fallait pas trop me dire ce qu'il fallait faire.
Et que tu étais déterminée.
Ouais, j'étais déterminée. Et puis bon, je suis sortie et je suis allée à un endroit qui m'avait été recommandé. Et il y a eu des conseillères, des IBCLC, des consultantes en lactation IBCLC qui m'ont aidée dans les semaines qui ont suivi l'accouchement. Et ça a changé complètement le cours de mon allaitement. Et j'ai allaité. C'était pas simple, mais elles m'ont donné des conseils. Je suis allée à leur classe, tout ça.
Tu t'es sentie accompagnée, quoi.
Je me suis sentie accompagnée et j'ai eu allaité pendant à peu près 17 mois, mon fils.
Ouais.
Voilà.
Comme quoi.
Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est chouette le boulot qu'elles font, en fait, parce qu'elles aident énormément. Enfin, ça peut changer le cours, ça. Moi, pour moi, ça a changé. Tu vois, je me suis réappropriée ce que je n'avais pas pu avoir pendant la naissance et tout ça. Et je me suis dit, c'est chouette quand même ce qu'elles font. Donc, je m'étais renseignée parce que c'était encore... Dans ma tête, je voulais trouver du boulot. Je regardais toujours un petit peu les 6 premiers mois postpartum. Je m'occupais de mon bébé, je m'occupais de mon mari. Mais de temps en temps, je regardais un peu les offres d'emploi. Et je trouvais que c'était assez difficile, Au bout de 6 mois, j'ai trouvé mon premier job, mais ce n'était pas du tout dans ce domaine, c'était dans un autre domaine. Et je me disais, je ne vais pas faire long feu, quoi. Il me faut mon année d'expérience et puis après, je m'en vais, quoi. Et j'avais gardé ça en tête en me disant, comment on fait pour devenir IBCLC? J'avais regardé les 3 options, comment il fallait faire et tout ça. Donc, je cherchais à faire mes 1000 heures de pratique. Donc, j'avais ça en tête. Donc, c'était en 2015 déjà, 2014-2015. Entre-temps, j'ai fait un programme offert par le City College et puis une organisation ici à San Francisco de remise à niveau pour des infirmières. J'avais des infirmiers étrangers ou des infirmières qui étaient en break pour s'occuper de leurs enfants et tout. Et comme le marché était difficile, en fait, et ben eux, ils faisaient une espèce de remise à niveau avec 400 heures, plus de 400 heures.
Pour te redonner des chances de trouver un job.
Voilà, de trouver un job. Donc, j'avais fait ça et grâce à ça, j'ai trouvé un job en ce qu'on appelle MedSurg, donc médecine-chirurgie. Voilà, j'ai travaillé pendant une petite année là-bas et en fait, en même temps, j'avais appliqué là où je travaille actuellement, donc au San Francisco General Hospital, donc c'est l'hôpital public. J'ai envoyé mon CV, enfin, tu sais, toute l'application en ligne. Au bout de 10 mois, ils m'ont contacté. Pour autant te dire, c'est le département, le Department of Public Health, DPH. Ça revient à dire l'administration américaine, quoi. Tu vois, c'est à peu près pareil. C'est un peu comme quand t'attends ta green card, c'est la même chose. Et donc, du coup, 10 mois pour me contacter. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous pour faire une interview, donc
un entretien.
Un entretien. Oui, merci. Tu traduis mon franglais.
on passe tous par là.
Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai eu un entretien. Et en fait, en promenant mon chien, j'ai reconnu quelqu'un qui était IPCLC dans mon quartier. Parce que, bon, forcément, j'avais fait mes recherches. Je me disais avec qui je pourrais faire mes 1000 heures. Donc, j'avais regardé s'il y avait une IPCLC dans mon quartier. J'avais vu sa tête sur Yelp. Et puis, en fait...
Stalker voilà. Du coup, tu l'as reconnue dans la rue. Tu t'es précipité.
Mais non, parce que j'habite en haut d'une colline. Tu sais, à San Francisco, il y a les collines. J'habite en haut d'une colline. Et en haut de cette colline, il y a un parc. Et dans ce parc, c'est un parc très connu pour... mettre ton chien off-leash, quoi, sans laisse. Et donc, du coup, on habite à 1 minute de ce parc. Donc, j'y vais tout le temps avec mon chien. Et je l'avais croisé une fois, deux fois, trois fois. Pétard, la troisième fois, je me suis dit, je vais quand même aller lui demander si c'est elle. Donc, je suis allée lui demander. Voilà, j'ai parlé avec elle. Et en fait, il s'avère qu'elle était aussi infirmière, qu'elle avait travaillé là-bas.
Ah, énorme.
Et qu'elle avait fait des entretiens d'embauche là-bas. Parce que en fait, tu as la manager et puis ils te prennent des infirmières pour poser des questions, machin. Donc, elle connaissait les questions. Donc, on a fait un café, elle m'a expliqué les questions. Je suis allée à l'entretien, j'ai répondu aux questions parce que les questions sont toujours les mêmes. Parce que tu sais, en termes d'égalité, machin et tout ça, ils te posent toujours les... Enfin, il y a quelques... on va dire quelques séries, quelques différentes séries, mais c'est genre le médicament qui change, mais ils te font toujours une question sur le médicament, tu vois. Bref, donc je passe l'entretien, ça se passe bien, je réussis l'entretien, je suis embauchée janvier 2017, je rentre en tant qu'infirmière là-bas, donc je suis contente, je suis très contente.
Bébé à quel âge à ce moment-là, du coup? Il a 3 ans?
3 ans, ouais, à peu près 3 ans. Et
donc, ton mari?
Et mon mari, ça allait, il était en rémission, voilà.
D'accord, donc du coup, entre-temps, il a guéri.
En fait, le traitement a commencé octobre 2013 et il a terminé, donc il a eu les chimiothérapies, les radiations. Le gros du traitement s'est terminé avant la naissance, mais il avait les effets secondaires. Il a quand même dû être réhospitalisé quand notre bébé avait, je sais pas, il avait moins d'un mois. Et puis, ma belle-mère est partie fin avril et début mai, on a enlevé le tube de son estomac parce qu'il pouvait plus avaler. C'était un cancer ORL. Et donc, il avait été tout brûlé au niveau de la gorge. Il pouvait plus s'alimenter par la bouche pendant des mois. Et donc, il était nourri par un tube à travers la peau qui va directement dans l'estomac. G-tube, ils appellent ça ici. C'est un tube gastrique. Donc, c'est posé à travers la peau, quoi. En fait, tu le gardes tout le temps. Et donc, il avait ça. Donc ça a été retiré. Ça a été retiré en mai. Et donc, on considère ça comme la fin du traitement.
Donc, le mari d'Estelle est guéri. Et ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. En parallèle, elle trouve donc du boulot. Elle travaille en urgence chirurgicale. Puis, elle trouve cet emploi dont elle vient de nous parler. Et là, c'est la révélation. Elle travaille en maternité et dans un premier temps, elle s'occupe du postpartum des mamans. Le postpartum étant donc cette phase après l'accouchement.
J'ai commencé par le postpartum et puis ensuite j'ai été en training, donc en formation doublage. En fait, ils te doublent, donc tu es avec une infirmière. Et comme, si tu veux, ici, les études d'infirmière, c'est hyper universitaire. Donc, elles sont hyper douées, elles savent tous les bouquins, elles les ont dans la tête, enfin tout ça. Mais après, elles n'ont pas trop de techniques, très peu de techniques, parce que les stages, c'est ce qu'ils appellent des clinicals, et donc ils vont avec leur prof sur une fois par semaine dans le service. Donc, par exemple, ils ont clinicals dans le module obstétrique-gynécologie, et donc, ils vont faire un... 7 heures dans un service d'obstétrique gynécologie et ils sont avec leur prof. Et donc, c'est leur prof qui regarde le tableau, c'est leur prof, ou avec leur prof, ils vont voir les patients. Ils vont voir l'infirmière référente et ils disent, ben voilà, aujourd'hui, tu as une aide, c'est l'étudiant. Et d'accord. Puis, elle va faire son assessment. Donc, l'assessment, c'est
l'évaluation de
la tête aux pieds pour toi. Et elle va remplir tout le dossier dans l'ordinateur pour toi. Tu auras juste à vérifier. Et moi, je suis prof et voilà. Et donc, ils font ça pour apprendre. Donc, c'est très lent, c'est voilà. Mais ce n'est pas des stages comme nous, on les connaît, tu vois, en France. Donc, du coup, ils posent très peu de perf, ils posent très peu de sondes urinaires, ils font très peu de pansements, ils vont faire peut-être... Enfin, s'ils ont de la chance, ils posent deux cathés pendant leur... leur clinicals, quoi, tu vois. En fait, il faut tout apprendre. Une fois que tu sors, il faut tout apprendre. Et en fait, le boulot en salle de travail et d'accouchement et de césarienne, tu apprends à faire du boulot de sage-femme. Parce qu'ici, les sages-femmes, elles sont reconnues comme médicales. Donc, c'est vraiment...
Pourquoi, c'est pas le cas en France ?
Si, je crois qu'elles sont reconnues en tant que médicales. Elles peuvent prescrire, par exemple, mais elles sont quand même... par exemple, elles vont préparer leur perf. Elles vont préparer leur perf. C'est elles qui vont gérer leur pitocine. Elles vont gérer tout le travail à partir du moment où la femme arrive dans la maternité, elle gère jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement, le postpartum. Alors que nous, si tu veux, la sage-femme, elle est assise dans le bureau avec les obstétriciens, enfin les gynécologues obstétriciens. Et puis, on l'appelle et on lui dit, bah, tu vois, tu as une patiente là qui est arrivée en triage, elle arrive, donc elle est sûrement en travail. Donc voilà, ça et ça. Donc elle regarde son dossier, elle regarde où elle en est, enfin tout le dossier médical. Elle va la voir, elle lui fait, elle fait son recueil de données, elle regarde ce qu'il faut faire. Et puis après, elle nous fait des prescriptions. Et puis elle fait son toucher si elle a besoin de faire un toucher vaginal. Mais dans certains établissements, alors nous, on ne les fait pas en tant qu'infirmière là où je travaille parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui doivent apprendre à faire les touchers pour voir la dilatation. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'hôpitaux où c'est l'infirmière qui le fait. Voilà. Et puis ensuite, nous, si tu veux, on va par protocole, on va commencer certaines perfs. Par protocole, on s'assure qu'elle veut pas plus de tubes pour envoyer au laboratoire, mais on va lui faire sa prise de sang, on va faire beaucoup de choses par protocole. Et après, on l'appelle si, par exemple, on va la voir, on lui dit, bah, écoute, je trouve que cette patiente, il y a ça et ça qui ne va pas. Est-ce qu'on peut regarder ensemble le monitoring ? On revoit ensemble le monitoring. Elle garde un œil, elle est très présente. Elle a beaucoup, beaucoup de boulot, hein. C'est pas ce que je veux dire. Elle ne reste pas que assise, hein. Elle a énormément de travail, mais elle a un niveau de responsabilité qui est juste parallèle, qui est très parallèle aux obstétriciens, en fait. Et elle travaille en collaboration avec les obstétriciens quand elle n'est pas trop sûre. Ou par exemple, elle va demander à l'obstétricien d'être à côté. Mais en fait, ouais, ils travaillent énormément ensemble. Donc voilà, la sage-femme est très, très médicale. Et nous, on est très technique, en fait. Bon, après, ça n'empêche pas.
Très complémentaire, finalement.
Voilà, très complémentaire. Après, ça n'empêche pas. Elle vient avec nous. Parfois, elle nous dit, bon, peut-être que la position pourrait m'être différente. Enfin, tout ça. Donc voilà, et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à travailler en postpartum, et notre maternité est baby-friendly, donc amie des bébés. Donc je ne sais pas si, voilà, c'est une designation, donc une...
C'est un label ou...
Ouais, c'est un label. C'est un label qui est attribué, donc il faut passer des étapes. Les hôpitaux sont quand même très... Enfin, ils sont moteurs, hein, pour obtenir ce label. Quand tu travailles là-bas, il y a certains steps à respecter, enfin, pour l'allaitement, pour promouvoir l'allaitement. Après, on respecte les choix des mamans, hein, si elles veulent pas. Mais en fait, en gros, c'est beaucoup, beaucoup d'informations sur l'allaitement, voilà, comment, enfin, pour essayer que ça se passe bien, et voilà. Et en fait, je me suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup encore plus intéressée à l'allaitement. Je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient du sens une fois que tu les comprenais. Et je me suis mise à étudier et j'ai passé mon diplôme qui est assez difficile. Pareil, c'est 175 questions avec des questions à choix multiples. Suivant ton parcours professionnel, tu peux choisir trois différents tracks pour aller à ce diplôme. pour aller passer cet examen. Moi, c'était ce qu'on appelle le pathway numéro 1. Et donc, moi, en fait, en gros, j'ai toutes les qualifications grâce à mon diplôme d'infirmière. Ensuite, j'ai fait une formation spécifique à l'allaitement de plus de 100 heures. Et puis, après, je suis allée passer le diplôme. Je l'ai eu, enfin, l'examen, j'ai eu le diplôme. Et en début 2022, j'ai décidé de passer à la demande à l'hôpital. Donc, avant, j'étais à temps plein. J'ai décidé de passer à la demande. À côté
pour te libérer des heures, du coup.
Voilà, pour être plus flexible, pour me libérer des heures. Et j'ai ouvert mon cabinet en parallèle.
Du coup, c'est cool que tu aies pu passer à temps partiel per diem, donc en fonction des besoins auprès de l'hôpital pour te libérer du temps. Et alors, ton cabinet, parce qu'en fait, tu aurais pu aussi, j'imagine, exercer en tant que IBCLC à l'hôpital, ramener tes compétences en postpartum avec les femmes, auprès des femmes qui accouchent. Mais finalement, tu as décidé avec ton cabinet de pouvoir aller chez les gens. C'était quelque chose de très important pour toi ?
Bah, en fait, ouais, j'aurais pu, mais bon, après, il y avait... Déjà, c'est assez limité, en termes d'emploi du temps et tout ça, c'était pas assez flexible pour moi. Et puis je le fais un petit peu aussi parce que malgré tout, quand il y a des gens qui ont des problèmes, ils viennent me chercher. Tu vois, ils savent que je suis formée et que je fais ça, et donc ils viennent me chercher. Ils me disent ah tiens, ça c'est un patient pour toi, ils me le mettent plutôt à moi que voilà quand je suis en postpartum. Et c'est quelque chose qu'ils savent. De temps en temps, je l'utilise là-bas. Mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'était en fait d'aider, en fait, d'avoir le support à la maison. Parce qu'en fait, c'est ce qui manque. Quand tu es à l'hôpital, tu vois, tu as toujours une infirmière à qui tu peux demander. Même si moi, je ne le savais pas quand j'y suis allée, même si moi, je ne savais pas que je pouvais demander, tu vois, d'avoir une IBCLC qui vienne me voir, quand moi, ça m'est arrivé. Mais là, en fait, moi, mon truc, c'est d'aller voir les gens à domicile, leur faire le prénatal, une session prénatale pour justement leur expliquer comment essayer de mettre toutes les chances de ton côté, quoi qu'il arrive, que tu aies une voix basse, que tu aies une césarienne, quoi qu'il arrive, essayer de voir comment ils peuvent prendre leurs décisions pour pouvoir essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Et puis, je vais les voir, de leur éviter de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir une césarienne et moins d'une semaine après aller marcher pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir aller à l'endroit où j'allais trouver du support et de l'aide.
Ouais, en gros, tu leur amènes le soutien à la maison là où tu en as le plus besoin au début aussi.
Voilà. Ouais, on tombe toujours sur la première semaine, les pleurs de la maman au bout de la première semaine où il commence à se passer
la chute d'hormones.
La chute d'hormones, le retard de sommeil, le stress, il y a énormément de stress.
Et puis tu as une pression aussi un peu sociétale de plus en plus de il faut allaiter. J'imagine que toi, tu ne leur dis pas qu'il faut allaiter. tu es là aussi pour les aider à arrêter s'il y a besoin. Enfin, tu couvres tout ce qui est autour de la lactation, en fait.
Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle ABC, lactation. C'est parce que c'est antépartum, donc c'est avant et je prépare. C'est B, c'est birth and beyond, c'est autour de la naissance et puis les quelques semaines après. Et puis, c'est continuing pour le C et ça veut c'est comment on continue ? Est-ce qu'on va pomper ? Est-ce qu'on retourne au travail ? Est-ce qu'on ne retourne pas au travail ? Est-ce qu'on veut arrêter ? Quand est-ce qu'on veut arrêter ? Comment on fait ? Je dis pas l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Le lait des mamans, il est approprié au bébé. Maintenant, il faut... Enfin, dans la naissance, dans tout ce qu'on peut vivre, il faut regarder ce qu'on est capable de faire, quoi. Mais capable, je dis pas dans les capacités, je dis au moment T, si tu rampes parce que tu n'en peux plus, si tu pleures, si c'est pas vivable de mettre ton bébé au sein, il faut pas continuer, tu vois. Il y a un moment où alors il faut se faire aider. Voilà. Et si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, si vraiment tu veux le faire, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui fonctionne pas et il faut trouver quelqu'un qui t'aide à éliminer ce qui fonctionne, à l'identifier. Et puis après, Si c'est une décision de, par exemple, de donner le biberon avec du lait qui est pompé, ben c'est une décision. Si c'est une décision de donner le biberon avec de la formule, alors ce qu'on appelle formule, c'est les préparations, le lait en poudre. Ben oui, mais est-ce qu'il faut savoir comment le faire? Enfin, je veux dire, ça ne s'invente pas de donner le lait. Ce n'est pas juste mettre de l'eau et de la poudre et puis on mélange et puis on donne ça au bébé, tu vois. Il faut apprendre à donner le biberon. Alors, ça paraît un peu... tout le monde sait donner le biberon. Ben non, on ne sait pas forcément donner le biberon. On ne sait pas forcément préparer le lait en poudre. Enfin, tout ça. Et on accompagne. Et c'est des choses, quand on en prend conscience, quand on comprend comment ça se passe, ben après, on le vit mieux quand même. J'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui étaient vraiment très très proches de la dépression postpartum et en fait qui disent l'allaitement c'est trop dur et en fait ce qui fait que l'allaitement est difficile c'est souvent la méconnaissance, la pression qu'on se met parce que tout le monde allaite et il faut allaiter. En fait on voit, et je pense qu'aussi les social media et tout ça, les social media et tout ne sont pas pour rien, mais on voit toujours des gens qui sont super contents, où l'allaitement, c'est génial, machin et tout
c'est
ça.
Facile.
Ou alors, ouais, facile, ouais. Tout ça. Et en fait, ben oui, pour certains, pour un nombre de personnes, on corrige quelques petites choses et ça va. Mais il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, qui font qu'il y a des barrières un peu. Et puis, juste après l'accouchement, il y a des choses qui se font et qui n'aident pas forcément, en fait, à établir un bon allaitement ou un allaitement qui sera plus facile. Et en fait, moi, j'essaie de prévenir ça en faisant le prénatal. Et j'essaie d'aider à ce que ce soit plus facile. Et moi, j'essaie toujours de simplifier quand je vais voir les parents. J'essaie toujours de simplifier, d'essayer à ce que les gens essayent de se reposer. Quitte à, des fois, un petit peu ralentir le rythme, mais à se reposer pour avoir de l'énergie. Je leur dis toujours, ce n'est pas un sprint qu'on fait. Ce n'est pas Carl Lewis qui court un sprint. C'est plutôt Kylian Jornet qui court un ultra-trail, quoi. Donc, ça va durer longtemps. Donc, on essaie de voir comment on peut faire pour que tout le monde récupère.
Que ce ne soit pas un supplice, quoi.
Exactement, que ce ne soit pas un supplice, qu'on diminue le niveau de stress, qu'on redéfinisse nos goals, enfin, nos
objectifs.
Nos objectifs, ouais. Merci encore une fois. et donc, voilà. C'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement, mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans
quel
ce qu'ils veulent
choix,
au fond. Oui, et ce qu'ils veulent au fond, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Si au fond tu as vraiment pas envie, moi je dis et que tu te dis peut-être que j'ai envie d'essayer, je dis essaye parce que tu sais jamais. Mais si ça ne te convient pas, et j'ai accompagné des gens qui m'ont dit « Estelle, ça ne me convient pas, est-ce qu'on peut arrêter ?» Et à 15 jours après l'accouchement, on avait arrêté. Ou on était en train d'arrêter. Tu vois, 15 jours, 3 semaines, ça s'est arrêté. Et la personne n'a pas de regret parce qu'elle a essayé. C'était définitivement pas pour elle. Et voilà.
Et l'accompagnement, tu le dis, t'accompagnes les familles et pas que la personne qui a accouché aussi. Enfin, l'allaitement, ce n'est pas l'affaire d'une personne.
Non. Non, non, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le partenaire, souvent, veut être dans, enfin, impliqué.
Soutenant.
Voilà, ouais. Et soutenant, impliqué. Et j'explique comment on peut être soutenant, j'explique comment on peut aider, tout en n'étant pas celui qui tient le biberon ou celle qui tient le biberon ou voilà parce qu'il y a un sein et que ben voilà c'est plus pratique quand c'est au sein que quand c'est au biberon mais après j'essaie de couvrir enfin chaque cas est unique et essayer de faire cas par cas quoi et voilà et en fait ben après il y a plein de façons d'arriver à un résultat qui convient à tout le monde quoi.
Et alors, au final, tu as intégré complètement le monde de la petite enfance et de la maternité dans ton écosystème autour de San Francisco. Et tu me disais que tu avais rencontré une autre Française avec qui vous vous êtes mis à écrire un livre. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Ouais, c'est pas un livre, c'est un site web.
Ah, pardon, j'avais noté un livre, ok.
Non, c'est un site web. En fait, avec le prénatal et tout ça, je me suis dit quand même, quand on est expat, on arrive, on a nos points de repère en tant qu'expat, et la maternité, c'est quand même un truc, c'est quand même un changement radical dans la composition de la famille. Et expat, c'est-à-dire que tu as quitter ton pays, tu viens dans un autre pays, même si on pense que c'est similaire, ça l'est quand même, enfin c'est un peu similaire, mais c'est quand même pas non plus ton pays, c'est pas ta langue. Tu sais pas exactement quelles sont les pratiques, et moi j'ai vécu tout ça, quoi. Et puis avec quelques clients français, je travaille pas qu'avec des expats français, je travaille aussi avec beaucoup d'Indiens, avec... voilà, je me suis dit en fait, chacun arrive avec sa culture.
Ouais.
Et donc du coup... J'avais cette idée en tête de, pour la communauté française, peut-être faire quelque chose qui facilite la vie.
Ouais.
Voilà, parce que je connaissais un peu de noms, d'autres personnes qui travaillaient autour de la périnatalité.
Mm-hmm.
Et puis un jour, j'ai un rendez-vous prénatal, un coup de téléphone avant un rendez-vous prénatal, parce que je fais un petit 20 minutes phone call.
De découverte.
De découverte un petit peu pour savoir qui je suis, on discute et tout ça. Puis je fais ça avec Alice, qui attendait un bébé. On commence à parler et pareil, exactement dans ça en fait. Elle avait des notions, mais avec de la famille en France. Je lui dis, est-ce que je peux te poser quelques questions parce que j'ai un projet et donc je commence à lui poser des questions. Puis on commence à parler du projet. Et j'avais un projet de faire un peu une liste de professionnels de la santé qui parlent français et qui peuvent te soutenir dans ta langue, en fait. Et puis, on commence à parler. Et en fait, le projet est né parce qu'elle elle a des compétences que je n'ai pas en termes...
Ouais.
Le site web, les...
Ouais, vous êtes très complémentaires.
Hyper complémentaires. Et elle avait aussi dans cette idée, mais elle n'avait pas trop les professionnels et elle se disait quand même il y a quelque chose à faire pour soutenir en fait, parce que moi je me sens un peu perdue là-dedans. Donc voilà, donc on a créé un site web qui s'appelle The French Baby Guide in San Francisco.
C'est marrant parce que du coup si c'est The French Baby mais que vous soyez parti en anglais pour en parler.
Oui, parce qu'on s'est dit le bébé français, ou le guide du bébé français, c'était un peu donc The French Baby Guide. Et donc voilà, in San Francisco. Et donc, c'est parce qu'au début, c'était parti, on va faire la liste et puis on mettra quelques informations. Et puis, du coup, on a fait la liste de professionnels. Donc, on a des doulas, on a hypnobirthing, on a hypnose. On a pédiatre, on a des obstétriciens, des sages-femmes, enfin une sage-femme qui parle français. Enfin, tout le monde doit parler français. Et puis aussi, enfin, moi j'aime beaucoup quand les gens connaissent bien le système français et bien le système américain. Voilà. J'évite les coachs, coach. Ça dépend, mais les coachs dans le domaine de la santé, c'est... Après, il y a les gens, par exemple, qui sont dans le domaine du fitness, ont des diplômes en STAPS, tu vois, des choses quand même solides avec des formations au niveau de la femme. Et puis, on favorise les gens qui sont dans la Bay Area, parce qu'on favorise que les gens puissent contacter et voir en personne. Mais si, par exemple, il y a des spécialités, par exemple, il y a la spécialité de l'aptonomie, qui n'est absolument pas ici développée. Et les Français parfois cherchent ça. Et donc, il y en a une qui est à Austin, donc on a son nom parce que c'est la seule. Donc voilà, on a son nom au cas où les gens veulent la contacter et voir ce qui est possible de faire. Donc voilà. Et ensuite, on a commencé à mettre des informations sur le passeport, on a commencé à mettre des informations sur les podcasts, on a commencé à mettre des informations sur les livres, et puis on a d'autres idées, en fait, on a pas mal d'idées, et puis on a commencé à faire des rencontres. Donc il y a des rencontres en personne, et puis il y a des... qui peuvent être suivies aussi par Zoom, Google Meet Zoom. Et donc, on fait des... voilà. Donc, les mamans peuvent se rencontrer. Et je sais que là, on a pris un petit break pour l'été. Mais après, ça recommence en septembre, par exemple. Mm-hmm. Et les premières mamans qui ont eu leur bébé avant l'été, je sais qu'elles sont en contact, par exemple.
D'accord, donc, génial.
C'est okay. Rigolo. Enfin, il y en avait qui se connaissaient d'avant. Mais bon, quand même, elles se sont rapprochées, apparemment. Donc, voilà. Donc, c'est chouette. Et on parle, par exemple, des soins des bébés. On parle... alors, j'ai une copine qui travaille dans un autre hôpital qui s'appelle UCSF, donc l'hôpital universitaire à San Francisco, voilà, de Californie à San Francisco. Et elle est pareille, elle est infirmière, elle a fait du labor and delivery, donc salle de travail et d'accouchement. Elle est plus en postpartum maintenant. Elle est aussi IBCLC. Et donc, par exemple, elle vient nous faire les cours des soins au nouveau-né. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement quand le bébé sort? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ou alors aussi, qu'est-ce qui va se passer pour la maman? Donc, on a fait des visites, des rencontres avec qu'est-ce qui va se passer pour la maman à la maternité, après l'accouchement, parce que c'est quand même assez différent de la France. Donc, on explique une fois que tu as accouché, si tu as une césarienne, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on va te lever, qu'est-ce qu'on va te donner comme médicament, qu'est-ce que tu as droit, comment ça va se passer. Parce que si on reste 2 jours, si c'est un accouchement voie basse, 3 nuits, si c'est un accouchement par césarienne, et hop, tu rentres à la maison. Qu'est-ce qui va se passer pour ton bébé? Quand est-ce que vont être les rendez-vous pour le pédiatre? Comment choisir son pédiatre? Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, on essaie d'apporter ça et c'est totalement gratuit et bénévole.
Bah, génial, bah, bravo. Je me suis mise sur le site, du coup, je suis en train de regarder un petit peu. Je mettrai le lien et je vois que ma collègue Hélène de French Morning a fait un article
dessus. Exactement, ouais.
Je mettrai le lien de cet article et de votre site dans la description de cet épisode ainsi que sur l'article du podcast sur frenchmorning.com.
Ouais, elle était venue, elle était super sympa, elle était venue à notre premier event.
Sympa.
C'était super sympa qu'elle se soit déplacée pour notre premier événement. Et c'était super d'avoir du soutien de French Morning, ouais.
Trop bien, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant, cette plongée dans ton histoire et puis dans le monde de la maternité, de la lactation, ton métier. J'allais dire, c'est pas exactement une reconversion, mais en tout cas, tu as eu un peu une sorte de calling quand tu as découvert ce métier d'IBCLC. Bravo pour tout ce que tu fais.
Merci.
Est-ce que tu as un dernier petit mot à partager avant qu'on se dise au revoir?
Juste que tout le monde a le droit d'avoir un soutien. Ce n'est pas parce qu'on va accoucher dans un endroit différent je pense qu'il faut vraiment se renseigner. On a le droit à un soutien. On a le droit, par exemple, il y a des choses auxquelles on a droit qu'on n'y pense pas. Mais par exemple, si on n'est pas sûr que l'on va s'en sortir au niveau de la langue, parce que je sais qu'ici, dans la Bay Area, généralement... Généralement, les gens parlent très bien anglais quand ils arrivent. Mais je connais aussi des gens qui ont un niveau d'anglais qui est plus bas. Et être enceinte et avoir l'impression... Il ne faut pas se dire qu'ici, on peut... Enfin, le docteur va nous dire ce qu'il faut faire. Il faut aussi être acteur. Si on ne se sent pas d'être acteur, on prend une doula dans ces moments-là qui parle anglais, qui va te soutenir pendant le moment. Parce que si on a besoin de soutien... Et sinon... On a le droit d'avoir un interprète. Un interprète. On peut demander. En fait, il y a des services où ils appellent avec leur téléphone, où ils amènent une espèce de boîte, où ils appellent un interprète et ils traduisent. Et si on n'est pas sûr des mots aussi, vraiment, il faut se faire aider. Il faut se renseigner. Il faut avoir du soutien parce qu'on n'a pas son système de soutien forcément habituel. Et avoir son système de soutien, préparer son accouchement, mais aussi préparer son postpartum, parce que je vois trop de gens qui préparent leur accouchement très très bien, mais après le postpartum est un peu oublié. Et en fait, du coup, c'est ce qui va durer pendant longtemps. Et donc, autant essayer de le préparer au moins un petit peu. Se créer un petit peu des ressources, savoir qui on va appeler si on a besoin. Et je trouve que c'est ultra ultra important d'avoir une bonne idée de si ça va pas ou si c'est difficile, plus difficile que ce qu'on espérait, avoir un système autour de soi, savoir qu'on peut dire non quand un docteur vient te voir et puis te dit ce serait bien de faire ça, de dire non, est-ce que vous pouvez me dire les pros et les cons, est-ce que j'ai le temps de prendre une décision,
le pro et le contre,
ouais, le point.
Les pros et les cons.
Les pros et les cons.
Ah, j'adore. Aïe, 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 Bernard Pivot a du souci à se faire, je rigole.
Ah ben avec moi, oui, il a du souci à se faire, oui, parce que je vais te dire que je n'étais pas la championne de la dictée et je ne le suis toujours pas. Ça ne s'arrange pas avec les années.
Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ah, surtout quand on travaille en anglais après.
Ouais, et puis j'ai mes enfants qui sont en espagnol, alors je vais te dire
ah oui,
que...
d'accord, donc tu aimes les défis.
Ouais. Oui. Ah ben oui. Et c'est pas fini. Hein. Je pense que j'ai pas terminé en fait. J'ai passé mon diplôme en français. Je l'ai repassé en anglais. J'ai passé mon IBCLC en anglais. Et puis on verra ce qui va venir. Mais je pense pas avoir terminé.
Bravo. On aura plaisir à suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis à bientôt.
Ben merci à toi, c'était très gentil ton invitation et puis c'était un très bon moment. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Estelle Fraisse pour son témoignage, sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous adresse un immense merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ça compte énormément. Si cet épisode vous a plu, prenez s'il vous plaît encore quelques secondes et rendez-vous sur vos applis de podcast. Assurez-vous d'être abonné à French Expat. Donnez 5 étoiles au podcast si vous le pouvez et laissez-nous un petit mot. On les lit tous avec beaucoup d'attention. Bon, et la semaine prochaine, on fait quoi ? Il se pourrait bien... On parle de hockey et qu'on prenne la direction du temple absolu du hockey sur glace, Montréal. Je vous propose d'écouter un extrait.
Eh bien écoute, j'ai été sur LinkedIn et puis là, honnêtement, trouver des emplois qui complétaient tous mes critères, eh bien c'était pas facile, hein, parce que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Alors je me suis dit, écoute Pauline, au lieu de postuler à 3000 postes sympas, mais qui offrent que 60% de mes critères, je vais postuler moins souvent, mais je vais postuler à ceux qui complètent, mettons, 90% de mes critères.
En attendant de retrouver le récit de Pauline la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt.
Attends, je sais pas si t'entends, il y a le gling-gling là de ma chienne qui... Tu couperas ça au montage, il y a gling-gling-gling, c'est ma chienne qui a son collier. Et donc, du coup, Attends, on va attendre, sinon je lui enlève son collier si elle continue.
T'inquiète.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.